L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie. Les temps apostoliques. Premier siècle. La première persécution générale des chrétiens. Quand le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, plein de grâce et de vérité, vint sur la terre, il ne rencontra en général de la part des hommes que mépris et haine. À la fin de sa vie sainte et pure, il disait avec douleur, « Ils ont et vu, et haï, et moi, et mon père. Ils m'ont haï sans cause. » Jean 15, versets 24 et 25. Mais cette haine ne fut assouvie que lorsqu'ils l'eurent cloué sur la croix. Les disciples du Seigneur, ceux qui croyaient en son nom et s'attachaient à sa personne, devaient-ils être mieux traités que leur maître? Non. Le Sauveur leur avait dit, « Parce que je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, versets 19 et 20. Et les disciples en firent bientôt l'expérience. Nous savons comment, dès le commencement de la prédication de l'Évangile, les apôtres furent jetés en prison et fouettés, comment Étienne fut mis à mort, et comment une grande persécution sévit contre les saints à Jérusalem et les dispersa. Nous nous souvenons de l'apôtre Paul qui, persécuteur d'abord, fut ensuite si ardemment poursuivi par la haine des Juifs lorsqu'il fut devenu serviteur de Jésus-Christ. Mais ces persécutions avaient été jusqu'alors une chose locale. Le pouvoir civil, celui des Romains, ne s'en était pas mêlé. Au contraire, Paul, par exemple, avait pu en appeler à lui pour échapper aux Juifs. Mais les choses changèrent de face, et la puissance redoutable de l'Empire, qui s'étendait sur tant de peuples et de nations, s'éleva contre les chrétiens et les déclara partout ennemis de l'État. Durant de longues années, avec quelques courts intervalles de répit, les disciples du Seigneur réalisèrent cette parole de leur maître, « Ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront. Vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et vous serez aussi livrés par des parents et par des frères, et par des proches et par des amis, et on fera mourir quelques-uns d'entre vous. » Luc 21, versets 12 à 16. Qu'est-ce qui excitait ainsi les hommes contre les chrétiens? Pourquoi le gouvernement, au lieu de les protéger, les persécutait-il? La réponse est claire et simple. La vie pure et sainte des chrétiens était une condamnation perpétuelle des vices et des mauvaises mœurs des païens, des abominations auxquelles ils se livraient, même sous un prétexte religieux. Les disciples de Jésus mettaient en pratique l'exhortation de l'apôtre « N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les. » Éphésiens 5, verset 11. Et les hommes s'irritaient contre eux, comme autrefois Caïn contre Abel. Caïn tua son frère parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises, et celles de son frère justes. La raison des persécutions a toujours été l'inimitié du cœur contre Dieu, contre Christ qui révèle Dieu, et contre les chrétiens qui manifestent Christ. Quant au gouvernement romain, il croyait avoir de bonnes raisons pour sévir contre les chrétiens. En voici quelques-unes. Rome, la grande ville, qui avait la royauté sur les rois de la terre, avait ses dieux particuliers, auquel elle pensait devoir sa grandeur et son pouvoir. Aucun autre dieu n'était toléré, à moins d'être reconnu légalement. Un des grands écrivains romains dit « Personne ne doit avoir de dieu particulier, ni adorer des dieux nouveaux et étrangers, à moins qu'ils ne soient reconnus par les lois publiques. » Or, pour les Romains, Jésus était un dieu étranger non reconnu. C'est ce que disaient déjà les philosophes athéniens après avoir entendu Paul. Il semble annoncer des divinités étrangères, se répétait-il, en l'entendant parler de Jésus et de la résurrection. Il est vrai que les Romains avaient aussi pour principe de laisser à chaque nation qu'ils avaient soumise ses coutumes particulières et sa religion. Quand Démétrius et les ouvriers qui étaient avec lui criaient « Grande est la Diane des Éphésiens », on ne leur en faisait pas un crime, mais bien de troubler l'ordre. Cela nous explique pourquoi les Juifs étaient tolérés et non les chrétiens. Les Juifs formaient un peuple distinct qui avait son Dieu. C'est ce qu'écrivait un philosophe grec du second siècle, grand ennemi des chrétiens. Les Juifs sont une nation, ils gardent les institutions sacrées de leur pays, quelles qu'elles puissent être, et en le faisant, ils agissent comme les autres hommes. Il est juste pour chaque peuple de révérer ses anciennes lois, mais les abandonner est un crime. Or les chrétiens n'étaient pas une nation, ils étaient tirés de toutes les nations, et parmi eux se trouvaient même beaucoup de Romains. En devenant disciples de Christ, ils abandonnaient les dieux particuliers de leur nation et ceux de Rome. Aux yeux de tous les gouvernements, c'était un crime. L'État, chez les Romains, était pour ainsi dire fondé sur leur religion. Elle se trouvait mêlée à toutes les circonstances de la vie civile et politique. Ne pas reconnaître les dieux, parler contre eux, faire abandonner les temples et les sacrifices, c'était renverser les bases de l'empire. Les images de l'empereur, dressées en divers lieux, devaient être révérées. Refuser de brûler de l'encens en leur honneur était un crime de lèse-majesté. Or, un chrétien ne pouvait s'associer à de tels actes qui étaient l'adoration d'un homme. Une note en bas de page, le temps viendra où, d'une manière encore plus formelle, un homme réclamera l'adoration de ceux qui lui seront assujettis. Apocalypse 13, versets 12 à 17.
Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Reprise de l'esquisse. Une multitude de personnes, sans compter les prêtres, vivaient de la religion d'une manière ou d'une autre, comme nous en avons vu un exemple à Éphèse dans l'histoire de Démétrius. À mesure que les chrétiens se multipliaient, la source des gains de ces personnes diminuait, et surtout celle des prêtres des innombrables temples et sanctuaires. De là une raison de plus pour détester les chrétiens. Une note en bas de page, Rome seule comptait 700 temples et des autels sans nombre. Reprise de l'esquisse. Le culte des disciples du Seigneur formait aussi un contraste complet avec celui des fausses divinités. Au jour de fête de celle-ci, de nombreuses et imposantes processions, composées de vieillards vénérables, de jeunes gens dans la force de l'âge, de jeunes filles vêtues de blanc, d'enfants, se formaient et traversaient la ville pour se rendre au temple des dieux. Là étaient offerts en grande pompe des sacrifices, et l'encens brûlé sur le feu des autels remplissait les airs de doux parfums. Les chrétiens n'avaient ni temple ni sacrifice. Ils se réunissaient dans quelques chambres hautes pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils s'exhortaient à l'amour et aux bonnes œuvres, et rompaient le pain entre eux en souvenir de la mort de Christ. En se séparant, ils se donnaient le baiser de paix. Comme ils se rassemblaient d'une manière privée, leurs ennemis en vinrent à prétendre que, dans leur réunion, ils s'adonnaient à des pratiques abominables, et c'était un nouveau sujet de haine contre eux. Mais un de ceux qui les persécutaient, Pline le Jeune, écrivain romain distingué et gouverneur d'une province, est forcé, dans une lettre qu'il écrivait à l'empereur Trajan, de rendre témoignage à la pureté de leurs mœurs. En même temps que les chrétiens s'abstenaient de participer aux fêtes religieuses païennes, ils évitaient aussi les jeux et les représentations théâtrales qui les accompagnaient d'habitude. À cet égard encore, ils étaient la condamnation vivante de ce qui se pratiquait autour d'eux et qui n'était que manifestation de ce que l'apôtre Jean nomme la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, 1 Jean 2, verset 16. Quel effet produisait cette séparation si entière? D'abord, on prit les chrétiens en pitié, puis on les méprisa, et enfin, on en vint à les haïr comme des gens qui troublaient les autres dans leur jouissance. Ce qui les faisait encore considérer comme ennemis de l'État, c'est que plusieurs répugnaient à être soldats. À ce propos, un de leurs adversaires écrivait « L'empereur ne vous punit-il pas avec justice? En effet, si tous étaient comme vous, qui resterait pour le défendre? Les barbares se rendraient maîtres du monde, et toute trace est de votre propre religion même et de la vraie sagesse disparaîtrait du milieu des hommes, car ne croyez pas que votre Dieu suprême descendrait du ciel et combattrait pour vous. » Une dernière chose qui excitait les esprits contre les chrétiens, c'est que ceux-ci ne pouvaient garder secrètes les saintes vérités qu'ils avaient apprises à connaître et qui remplissaient leur cœur de paix et de joie. « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création », Marc 16, verset 15, leur avait dit le Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues, acte 4, verset 20, disaient les apôtres. L'amour du Christ nous étreint, disait Paul. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, 2 Corinthiens 5, verset 14 et 20. Ainsi, il rendait témoignage à Dieu et à son amour au milieu d'un monde perdu, et annonçait les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, Jean 3, verset 19, et ont de tout temps, d'une manière ou d'une autre, cherché à se débarrasser de ceux qui faisaient briller cette lumière importune. Je viens de dire les motifs qui agissaient sur les cœurs des hommes pour les porter à persécuter les témoins de Christ. Et ces mêmes motifs sont souvent allégués aussi de nos jours pour jeter le blâme sur eux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quelqu'un qui poussait les persécuteurs contre les chrétiens. C'était Satan, l'adversaire, le grand ennemi de Dieu et des hommes. Il se servait de toutes les passions, de tous les mauvais sentiments, de tout ce qui se trouve dans le méchant cœur de l'homme, pour chercher, en détruisant les chrétiens, à anéantir la vérité qui sauve. Il est l'esprit qui opère dans les fils de la désobéissance, le lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il s'empara de l'esprit du méchant empereur Néron pour le pousser à persécuter les disciples de Christ. Nous allons voir quelle occasion il prit pour le faire. Une note en bas de page. Dans les derniers et terribles temps qui suivront l'enlèvement des saints pour être avec le Seigneur, Satan, chassé du ciel, donnera au chef de l'Empire romain, qui sera alors rétabli, sa puissance et son trône et un grand pouvoir, et il fera la guerre aux saints. Voyez Apocalypse 12, versets 7 à 9.
Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Apocalypse 13, versets 1 à 7.
Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête, disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation.
Néron et ceux qui le suivirent en furent comme les précurseurs. Reprise de l'esquisse. Une nuit du mois de juillet de l'an 64 éclata dans Rome un incendie terrible. Commencé près du cirque, il étendit bientôt ses ravages de toutes parts, et rien ne put l'arrêter. Excité par un vent violent, les flammes s'élancèrent dans toutes les directions avec une rapidité inouïe, et bientôt la grande ville ne fut plus qu'une mer de feu. Durant 6 jours et 7 nuits, l'incendie sévit avec fureur. Temples, palais et maisons furent réduits en cendres. Une multitude de personnes perdirent la vie, quantité d'autres restèrent sans asile après avoir perdu leurs biens. Des 14 quartiers que comprenait Rome, 4 seulement restèrent intacts. 3 furent absolument détruits. Les 7 autres ne présentaient qu'un amas de ruines. Le feu ne s'arrêta que faute d'aliments, après que l'on fut parvenu à abattre toute une rangée de maisons pour former un vide que les flammes ne purent franchir. La première stupeur passée, on se demanda quel pouvait être l'auteur ou les auteurs d'un si terrible désastre. Les soupçons du peuple se portèrent sur Néron, devenu odieux par ses vices abominables et sa cruauté, lui, meurtrier de sa mère, de son frère et de sa femme. On prétendait l'avoir vu contemplant du haut d'une tour élevée l'incendie, en chantant sur sa lyre les vers d'Homère qui décrivent la conflagration de Troie. On alla jusqu'à dire que le feu avait été mis par son ordre, afin qu'il pût jouir de cette vue, et afin d'avoir la gloire de rebâtir la ville sur un nouveau plan, et d'y ériger pour lui-même un magnifique palais. Afin de détourner de lui l'indignation publique, Néron, connaissant la haine du peuple contre les chrétiens, accusa ceux-ci du crime qu'on lui imputait, et les condamna au plus affreux supplice. L'historien romain Tacite, qui à cette époque était un enfant, nous en parle. Néron, dit-il, chercha des coupables et fit souffrir les plus cruelles tortures à des malheureux que le peuple nommait chrétiens, nom qui leur venait de Christ, condamnés à mort sous Tibère par Ponce Pilate. On commença par saisir ceux qui s'avouaient chrétiens, puis, sur leur déposition, une multitude d'autres. À leur supplice, on ajoutait la dérision, on les enveloppait de peaux de bêtes, et on les faisait déchirer et dévorer par des chiens. D'autres étaient crucifiés, d'autres encore, attachés à des pieux, les vêtements et le corps enduits de résine, servaient comme de flambeaux pour éclairer la nuit. Néron avait donné ses propres jardins pour ce spectacle. L'excès de ses supplices fit que le peuple se sentit ému de compassion pour ses victimes, qui semblait moins être mise à mort pour le bien public que pour satisfaire la cruauté d'un homme. Comment ces martyrs supportèrent-ils ces cruels tourments? Aucun récit ne leur apporte, non plus que leur nom que Dieu seul connaît. Mais nous pouvons être sûrs que celui pour le nom duquel ils souffraient les soutint par sa grâce, afin qu'ils fussent fidèles jusqu'à la mort. Ils auraient pu racheter leur vie et éviter ces souffrances en reniant Christ. Mais ils le confessèrent, préférant souffrir pour lui pendant un peu de temps et régner bientôt avec lui. Il n'y avait pas longtemps que Paul avait quitté Rome, et ils avaient la lettre qu'autrefois il leur avait adressée. Ils pouvaient se rappeler, dans leurs tourments, et les exhortations et ces paroles du bienheureux apôtre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Ils étaient ainsi soutenus et élevés au-dessus de tout ce que la rage des hommes inventait, et pouvaient s'écrier en triomphe, « Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ ? Tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Romains 8, versets 18 et 35 à 39. Cette première persécution dura, avec plus ou moins de violence, jusqu'à la mort de Néron, qui se fit tuer par un esclave en l'an 68, haï de tous, poursuivi par ses soldats et le Sénat révolté. C'est de lui que Paul parle en disant « J'ai été délivré de la gueule du lion ». Il avait donc entendu l'Évangile, mais il ne le reçut pas, et mourut misérablement et accablé de terreur. C'est dans la persécution suscitée par lui que Paul, revenu à Rome, et Pierre subirent le martyre et allèrent vers le Seigneur. Quel contraste ! Telle fut la première persécution générale ordonnée par la puissance impériale contre les chrétiens. Nous vivons dans des temps paisibles. Nous pouvons bénir Dieu de ce qu'il retient la méchanceté de Satan et nous permet de rendre notre culte sans empêchement. Mais rappelons-nous que, quand le diable n'use pas de violence, il se sert de la ruse et cherche à endormir les âmes dans une fausse sécurité, en faisant croire à plusieurs qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne font pas reposer leur espérance sur Christ. On voit des foules remplir chapelles, temples et lieux de réunion, mais si des soldats étaient postés aux portes pour traîner en prison ceux qui sortent, les auditeurs seraient-ils aussi nombreux? Dieu veuille que nos cœurs soient attachés à Christ, de telle sorte que rien ne puisse nous séparer de lui. La destruction de Jérusalem. Ce grand événement et la dispersion finale des Juifs qui en est la conséquence ne fait pas partie, à proprement parler, de l'histoire de l'Église. Cependant, comme il s'y rattache d'une manière très intime, nous en parlerons maintenant, parce qu'il suivit de très près la première persécution des chrétiens. Le siège et la prise de Jérusalem, avec toutes les souffrances inouïes qui endurèrent les malheureux Juifs, furent la consommation des jugements dont Dieu frappa, après sa longue patience, le peuple qu'il avait choisi pour le bénir, mais qui s'était toujours montré ingrat et rebelle. Le Seigneur Jésus retrace la conduite des Juifs dans la parabole des vignerons. Après les fréquents avertissements des prophètes qu'ils n'avaient pas voulu écouter, Dieu avait dit « J'enverrai mon Fils bien-aimé ». Peut-être que, quand ils le verront, ils le respecteront. Mais qu'arriva-t-il? Le Seigneur Jésus nous le dit, ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père. Bien loin de le respecter, les chefs de la nation se dirent, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et c'est ce qu'ils firent. Que restait-il? Sinon le jugement que d'ailleurs ils avaient prononcé eux-mêmes, le maître de la vigne fera périr misérablement ses méchants. Une note en bas de page, Matthieu 21, versets 37 et 38.
Et enfin il envoya auprès d'eux son fils, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le et possédons son héritage. »
Jean 15, verset 24.
Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père.
Luc 20, verset 14.
Mais quand les cultivateurs le virent, ils raisonnèrent entre eux, disant, « Celui-ci est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. »
Nos lecteurs sont instamment priés de lire avec soin toutes les citations des Écritures. Le récit que nous leur présentons éclaircira pour eux les paroles prophétiques du Seigneur. Reprise de l'esquisse. Bien des fois, le Seigneur avait averti les Juifs du sort qui les attendait s'ils le rejetaient. Mais ils ne voulurent pas venir à lui pour avoir la vie. Ils refusèrent la grâce qu'il leur offrait. Le Sauveur voyait avec une profonde douleur leur endurcissement et les châtiments terribles qui en seraient la conséquence et qui allaient fondre sur le peuple et la cité qu'il aimait. Écoutons ces accents si tendres. Jérusalem, Jérusalem, disait-il, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Que devait-il résulter de ce refus de venir à Christ? Le Seigneur le dit. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Quelle était cette maison? Le temple qui allait cesser d'être la maison de Dieu et n'être plus que la maison d'un peuple rejeté de Dieu, maison vide de la présence de celui qui en faisait la gloire. En effet, aussitôt après ces paroles, Jésus, qui était le Seigneur du temple, sortit et s'en alla du temple pour n'y plus rentrer. Matthieu 23, versets 37, 38 et 24, 1. C'en était fait. Le jugement était prononcé et ne tarderait pas à être exécuté. Les disciples du Seigneur n'avaient pas compris ces paroles. Ils étaient toujours remplis des pensées de gloire et de grandeur terrestre pour leur nation. Ils s'attendaient à ce que Jésus monterait sur son trône comme fils de David et établirait son royaume. En sortant du temple, ils voulaient lui en faire admirer les magnifiques constructions et leur solidité. Mais le Seigneur leur répond, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Matthieu 24, verset 2. Les malheureux Juifs consommèrent leur crime inouï. Ils firent crucifier celui qui était venu leur apporter le salut. Le jugement de Dieu ne tomba pas sur eux immédiatement, car, tandis qu'eux avaient crié contre Jésus, « Hôte, hôte, crucifie-le », Jésus, pendant qu'on le crucifiait, avait prié pour eux et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jean 19, verset 15, Luc 23, verset 34. Et à la prière de son Fils bien-aimé, Dieu avait prolongé le temps de sa patience. 40 années furent encore laissées à ce pauvre peuple pour se repentir. Le Seigneur leur envoya des messagers pour leur dire, « Tout est prêt, venez aux noces. » Matthieu 22, verset 4. C'étaient les apôtres et les évangélistes, comme Étienne, qui, à Jérusalem même, annoncèrent cette bonne nouvelle du pardon que Dieu voulait bien leur accorder pour l'amour de son Fils. « Je sais, leur disait Pierre, que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. » Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, versets 17 à 19. Que firent-ils devant ces appels si pressants? Quelques-uns crurent et furent sauvés, il est vrai. Mais quant à la masse de la nation, ses chefs en tête, le Seigneur nous dit, dans la parabole des noces, comment ils accueillirent son invitation. Eux, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent, l'un à son champ, et un autre à son trafic, et les autres, s'étant saisis de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Matthieu 22, versets 5 et 6. Nous avons vu, en nous occupant des premiers temps de l'assemblée, comment ces paroles se réalisèrent. Les apôtres battus et jetés en prison, Étienne lapidé, Jacques décapité, Paul persécuté avec acharnement, montrent l'incrédulité des Juifs et leur haine contre le nom de Jésus. La colère de Dieu était venue sur eux au dernier terme, 1 Thessaloniciens 2, verset 16. Et la sentence allait être exécutée. Le roi fut irrité, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville, Matthieu 22, verset 7. Jésus, étant proche de la ville et la voyant, avait pleuré sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. » Luc 19, versets 42 à 44. Tout cela s'accomplit avec la plus minutieuse exactitude, car la parole de Dieu est ferme, elle demeure à toujours, et le Seigneur Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Luc 21, verset 33. Nous allons voir comment le jugement de Dieu sur les Juifs s'exécuta. Des historiens romains, et en particulier Tacite, nous ont laissé quelques détails sur la guerre de Judée. Mais celui qui nous rapporte le plus complètement les événements de cette période de douleur et de calamité sans égale est l'historien juif Joseph, qui en fut le témoin oculaire. Nommé gouverneur de la Galilée par les Juifs révoltés contre les Romains, il avait soutenu un long siège dans la ville de Jotopata, avait été fait prisonnier et se trouvait avec le général romain qui assiégeait Jérusalem, lui servant d'intermédiaire et d'interprète auprès de ses malheureux compatriotes. Les Juifs avaient toujours supporté avec impatience la domination des Romains. Ils ne voulaient pas comprendre qu'ils leur étaient assujettis à cause de leurs péchés, dont ils auraient dû s'humilier, et ne rêvaient qu'un Messie guerrier et conquérant. C'est ce qui les fit mépriser et rejeter un sauveur humble et débonnaire qui leur prêchait la repentance et écoutait des imposteurs qui les conduisirent à la ruine. Bien des fois, il y avait eu des révoltes partielles. Acte 5, verset 36-37.
Car avant ces jours-ci, Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes, et il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. Après lui s'éleva Judas le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna à la révolte un grand peuple après lui, lui aussi a péri, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés.
Acte 21, verset 38.
N'es-tu donc pas l'Égyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et a mené au désert les 4000 hommes des assassins?
De faux messies s'étaient élevés et avaient entraîné après eux des partisans. Les Romains avaient étouffé dans le sang ces tentatives d'insurrection. Voici ce qui amena la révolte générale et finale pour l'exécution du jugement de Dieu et l'accomplissement des paroles du Seigneur. Des troubles et des rixes sanglantes avaient eu lieu à Césarée entre les Grecs et les Juifs. Ces derniers en avaient appelé à Gessus Florus, procurateur de Judée, et lui avaient envoyé une somme de 8 talents afin de se le rendre favorable. Florus garda l'argent, mais ne fit rien pour les Juifs. Au contraire, il traita avec le plus grand mépris et fit jeter en prison plusieurs des principaux Juifs de Césarée, venus auprès de lui pour revendiquer leurs droits. En même temps, il exigeait des habitants de Jérusalem une somme considérable, sous prétexte que l'empereur en avait besoin. Ces demandes furent repoussées avec dédain par les Juifs de Jérusalem, qui avaient appris le traitement dont avaient été victimes ceux de Césarée. Le nom de Florus fut couvert d'insultes. Irrité, il marcha contre la ville avec des troupes, et le peuple effrayé se soumit aussitôt. Mais Florus semblait décidé à pousser à bout les Juifs et à les forcer à la révolte. Il donna ordre à ses soldats de piller la ville et de tuer quiconque résisterait. Plusieurs Juifs, même d'entre ceux qui ne firent point de résistance, furent ainsi mis à mort. Alors l'avide procurateur, ayant fait entrer dans Jérusalem un plus grand nombre de troupes, se mit en devoir de piller le trésor du temple. Pour empêcher cette profanation et arrêter les soldats dans leur tentative, le peuple, soulevé, fit pleuvoir sur eux des fenêtres et du haut des maisons une grêle de pierres. Florus, devant cette résistance, abandonna son entreprise et se retira avec le butin qu'il avait fait. Les chefs du peuple juif, se trouvant ainsi accablés sous la tyrannie de cet homme dur et injuste, en appelèrent au gouverneur de Syrie, Cestius Gallus, sous les ordres duquel se trouvait Florus. Mais sur ces entrefaites, un événement eut lieu qui alluma définitivement la guerre entre les Romains et les Juifs. Nous lisons au chapitre 5 des Actes que Gamaliel, prenant la défense des apôtres devant le Sanhédrin, parla d'un certain Judas le Galiléen qui avait entraîné à la révolte un grand peuple. Ce Judas prêchait la guerre contre les Romains et déclarait qu'on ne devait plus leur payer d'impôts. Il fut tué dans un combat, mais son parti, dispersé pour un temps, releva la tête sous les ordres de son fils et poussa le peuple à résister aux Romains par les armes. Il y avait bien aussi un parti qui aurait voulu la paix, mais le parti de la guerre prévalut et commença les hostilités par un acte de trahison insigne. Florus, en quittant Jérusalem, y avait laissé une garnison. Attaqués par les Juifs, les soldats romains, après une vigoureuse résistance, furent forcés de se rendre. Ils le firent sous la promesse solennelle de la part des Juifs, qui, ayant déposé leurs armes, ils pourraient quitter Jérusalem. Mais à peine désarmés, au mépris de la foi jurée, les Juifs se jetèrent sur eux et les tuèrent tous, sauf un seul qui demanda grâce. Cette perfidie détruisit toute espérance de paix. En même temps, les païens à Césarée se ruèrent sur les Juifs et en tuèrent 20 000. De toutes parts on prit les armes et la révolte devint générale. Pour la réprimer, Cestius Gallus s'avança avec une armée. Nous voyons ainsi l'aveuglement terrible auquel Dieu abandonnait ce malheureux peuple et qui le précipitait vers sa ruine en appelant sur lui les coups de ces redoutables Romains, maîtres alors du monde. Sans le savoir, ceux-ci étaient les armées du grand roi qui allait venger l'insulte faite à son fils bien-aimé. Matthieu 21, versets 38 et 39.
Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et possédons son héritage. » Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Et Matthieu 22, verset 7.
Et le roi, l'ayant entendu, en fut irrité. Et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville.
Cestius Gallus, après s'être emparé de plusieurs villes révoltées de la Palestine, marcha enfin contre Jérusalem. L'attaque commença, et les Romains se rendirent bientôt maîtres d'une partie de la ville. Ils se mettaient en devoir d'abattre la seconde muraille, et les assiégés, pressés de si près, étaient dans la plus grande consternation. Lorsque, sans raison apparente, Cestius Gallus fit retirer ses troupes. Cette retraite devint pour les Romains un véritable désastre. Les Juifs, enhardis, se précipitèrent hors de la ville à leur poursuite. Les Romains, obligés de passer dans le défilé étroit de Beth-Horon, y furent écrasés sous une grêle de pierres par les Juifs qui occupaient les hauteurs. Près de 6 000 hommes périrent, et Cestius lui-même n'échappa qu'à grand-peine. Les Juifs rentrèrent à Jérusalem en triomphe et chargés de butin. Comment expliquer ce fait? Nous avons là encore l'accomplissement d'une parole du Sauveur. Il avait dit à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent. » Et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elles, car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Luc 21, versets 20 à 22. Obéissant à ces paroles, les chrétiens, grâce au répit que leur donna la retraite de Cestius, sortirent de Jérusalem et se retirèrent à Pella, de l'autre côté du Jourdain. Rien ne restait donc à Jérusalem qui pût arrêter le jugement de Dieu, suspendu depuis si longtemps sur un peuple coupable. Les Romains ne pouvaient laisser les Juifs se glorifier de leur victoire. Leur révolte devait être réprimée. L'empereur Néron envoya contre eux une armée de 60 000 hommes, commandée par Vespasien, le plus habile de ses généraux. Les Juifs, dans l'intervalle, s'étaient fortifiés, avaient amassé des provisions, forgé des armes et se préparaient à une résistance désespérée. Mais nous nous rappelons la prophétie du Seigneur. « Si tu eusses connu, disait-il en pleurant sur Jérusalem, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. » Luc 19, versets 42-44. Ces jours dont Jésus parle étaient arrivés, mais avant d'en venir au siège de Jérusalem, écoutons encore une autre partie des paroles prophétiques du Seigneur relatives à ces grands événements. Il disait aux apôtres, « Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. » Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes, et il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. Luc 21, versets 10 et 11. Il avait dit aussi, « Avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Luc 21, versets 12 à 17. Nous avons vu précédemment qu'en effet, soit par les Juifs d'abord, puis à la fin du règne de Néron, les chrétiens furent horriblement persécutés. Quant aux autres parties de la prophétie, les historiens anciens rapportent qu'à cette époque, des guerres civiles et étrangères sévirent partout. En moins de 2 ans, 4 empereurs se succédèrent. Néron se tua, son successeur Galba fut mis à mort par les légions révoltées. Othon, qui suivit, se donna la mort, et Vitellius fut déchiré par la populace de Rome. Ces changements n'avaient pas lieu sans des luttes sanglantes. En même temps, les armées romaines combattaient les peuples de la Germanie. En Italie, en Crète et en Asie mineure, de violents tremblements de terre renversèrent des villes. Des famines sévirent en divers lieux sous l'empereur Claude. Voyez Actes 11, verset 28.
Et l'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'une grande famine aurait lieu dans toute la terre habitée, laquelle aussi eut lieu sous Claude.
Des pestes désolèrent plusieurs contrées, et particulièrement la Judée. Nous savons que du moment que le Seigneur l'avait dit, la chose devait avoir lieu, car « le ciel et la terre passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront point. » Luc 21, verset 33. Mais il est frappant de voir ces historiens anciens, ennemis des chrétiens et ne connaissant rien de ce que Christ avait annoncé, rendre ainsi hommage à ses paroles. Il en est de même pour ces sujets d'épouvantement et les grands signes du ciel. L'historien Joseph rapporte qu'une étoile ou comète, avec une longue queue en forme de glaive, resta durant une année au-dessus de la cité. « On vit dans le ciel, dit-il encore, des chariots et des troupes de soldats qui s'entrechoquaient, et des armes étincelantes. » Dans une autre occasion, l'autel parut durant une demi-heure enveloppé d'une grande lumière qui ensuite s'éteignit. Les portes d'airain de la cour intérieure du temple, si pesantes qu'il fallait 20 hommes pour les mouvoir, s'ouvrirent d'elles-mêmes, ce que l'on regarda comme un signe que le temple ne serait plus protégé contre l'ennemi. Tacite, l'historien romain, confirme ces faits. Il dit qu'un embrasement subit de nuages couvrit tout le temple de feu, et ajoute qu'une voix surnaturelle se fit entendre quand les portes s'ouvrirent et prononça ces paroles « Les dieux s'en vont ». Un païen pouvait parler des dieux. Mais en effet, le peuple juif avait comblé la mesure de ses crimes, et Dieu l'avait abandonné. L'apôtre disait des Juifs, « Ils ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont chassés par la persécution, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. » 1 Thessaloniciens 2, versets 15 et 16. Dieu donnait ainsi par des signes manifestes des avertissements à ce pauvre peuple. Il y en eut un surtout qui fit une profonde impression. Un homme nommé Jésus, fils d'Ananus, se mit à parcourir les rues de Jérusalem en criant « Voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des quatre vents, voix contre Jérusalem et la sainte maison, voix contre tout ce peuple. Malheur, malheur à Jérusalem !» On se saisit de lui et on le battit pour le faire taire, mais il ne cessa de crier « Malheur, malheur à Jérusalem !» Il fut amené devant le gouverneur romain qui lui demanda qui il était, d'où il venait et pourquoi il proférait ces paroles. Mais on n'obtint de lui aucune autre réponse que ces mots « Malheur, malheur à Jérusalem !» Il fut cruellement frappé de verge, sans que l'on pût tirer rien d'autre de lui. Enfin, on le relâcha, le regardant comme un fou. Il avait commencé avant la révolte, alors que tout était en paix, et continua pendant 4 années. Pendant le siège, il ne cessa de faire entendre son cri, faisant le tour des murailles, insensible au danger, lorsque, à un certain moment, après avoir dit « Malheur à Jérusalem », il s'écria « Malheur, malheur à moi !» et il tomba mort, frappé d'une pierre lancée par les assiégeants. Mais tous les avertissements furent vains. S'il y avait dans Jérusalem des habitants qui auraient préféré se soumettre aux Romains, ceux qui voulaient la guerre à outrance les firent taire et précipitèrent le peuple dans la ruine prédite. Vespasien et son fils Titus, après avoir pris et détruit les villes les plus importantes de la Judée, et passé au fil de l'épée, ou vendu comme esclaves les habitants, se dirigèrent vers Jérusalem. 3 parties se divisaient la ville. Ils se haïssaient d'une haine mortelle, et, avant l'arrivée des Romains, avaient rempli Jérusalem de sang. Les plus cruels, nommés les Zélotes, qui avait pour chef Jean de Giscala, avait fait périr 12 000 des plus riches habitants de la ville et, pour s'emparer du temple, avait égorgé la garde qui occupait l'édifice sacré. Sans les Romains, la cité aurait péri des mains de ses enfants qui se dévoraient entre eux comme des bêtes féroces. Mais à l'approche des Romains, ils se réunirent contre l'ennemi commun. Vespasien, ayant été nommé empereur, laissa le commandement à Titus, qui commença le siège de la ville dans le mois d'avril de l'an 70. Les Romains s'occupaient à établir leur retranchement, lorsque tout à coup les Juifs firent une sortie et les attaquèrent avec fureur. Les Romains, surpris, furent mis en désordre, plusieurs furent tués, et Titus lui-même échappa à grand-peine. Il rallia cependant ses soldats et, après un combat d'une journée, repoussa les Juifs dans la ville. Titus continua les travaux de siège et résolut d'attaquer la partie septentrionale de la ville, nommée Bézetta, comme étant la moins fortifiée. Mais avant de raconter quelques particularités de ce siège mémorable, nous devons dire un mot des moyens qu'employaient les Romains pour s'emparer des villes, et comment les assiégés repoussaient leurs attaques. Pour ébranler et renverser les murs, les Romains faisaient usage de machines nommées béliers. Elles se composaient d'une énorme poutre, terminée à un bout par une puissante pièce en fer, de la forme d'une tête de bélier. Cette poutre était suspendue par des cordes à une sorte d'échafaudage, assez semblable à un portique de gymnastique, de manière à pouvoir être mise en mouvement. On la retirait en arrière au moyen de cordages, puis on la laissait aller, et elle frappait de tout son poids, augmentée de la vitesse de sa course contre les murs que l'on voulait renverser. Les hommes qui faisaient mouvoir le bélier était abrité par une construction en planche semblable à un hangar. Indépendamment de ces machines de guerre, les Romains en avaient d'autres destinées à lancer contre les assiégés de grosses pierres et d'énormes flèches. Ils construisaient aussi des tours en bois recouvertes de fer ou de peau et qui s'élevaient à une hauteur supérieure à celle des murailles. Ces tours étaient mobiles sur des roues, de sorte qu'on pouvait les faire avancer ou reculer et les porter du côté que l'on voulait. Des archers et des frondeurs en occupaient la plateforme supérieure et de là, avec leurs traits, cherchaient à chasser les défenseurs des murailles et à protéger ceux des leurs qui manœuvraient les machines de guerre. La partie inférieure renfermait souvent un bélier, et des autres étages on pouvait lancer des ponts volants pour descendre sur les murs de la ville assiégée. Nous voyons que si l'on ne connaissait pas les puissants et meurtriers engins de guerre que l'on emploie maintenant, le génie inventif de l'homme s'était déjà déployé dans ce champ terrible des luttes sanglantes qui ne prouve que trop que le monde est sous la puissance de celui qui est meurtrier dès le commencement. Jean 8, verset 44. Les Juifs, à leur tour, ne manquaient pas de moyens de défense. Du haut des murailles, ils lançaient aussi des traits et des pierres pour écarter les assiégeants. Mais leur grand effort tendait à détruire les redoutables machines de guerre de leurs ennemis. Pour cela, tantôt ils creusaient des mines qui allaient jusqu'au-dessous du sol où reposaient les machines. Ils soutenaient la voûte de ces galeries souterraines avec des étais en bois, auxquels, avant de se retirer, ils mettaient le feu. Le sol s'effondrait quand les supports étaient consumés et entraînait les machines. D'autres fois, par des portes cachées, ils faisaient une sortie avec des torches allumées et des matières inflammables et cherchaient à incendier les machines et les tours. Alors Titus lançait sur eux sa cavalerie et les refoulait dans leurs murs. Titus attaqua donc d'abord la partie de la ville nommée Bézetta. Il mit en action trois béliers pour battre la muraille. En même temps, il fit avancer des tours, du haut desquelles des archers et des frondeurs accablaient de traits les défenseurs de la ville, qui s'efforçaient d'entraver ses manœuvres. Sous les coups incessants des béliers, les murailles, bien que formées de pierres de 11 mètres de longueur sur 5,5 d'épaisseur, commencèrent à chanceler. Enfin, une brèche fut faite. Les Romains entrèrent, mais ne trouvèrent personne. Les Juifs s'étaient retirés derrière l'enceinte fortifiée qui fermait la seconde partie de la ville ou ville basse. Les machines de guerre furent amenées, et en peu de jours, une brèche ayant été pratiquée, les Romains entrèrent dans cette seconde partie de la ville. Titus ne voulut pas d'abord en détruire les maisons, espérant toujours que les Juifs renonceraient à se défendre. Mais cette clémence faillit coûter cher à ses troupes. Les Romains, ayant pénétré dans les rues étroites et tortueuses de la ville, se virent assaillis par les Juifs qui en connaissaient tous les détours. Titus prit des mesures pour empêcher le retour de semblables attaques et refoula les Juifs dans la troisième partie de la ville, ou ville haute. C'est là que se trouvait le temple. En contemplant sa magnificence, Titus aurait voulu l'épargner, ainsi que le reste de la cité. Il tenta d'engager les Juifs à se rendre, mais ses offres furent rejetées avec mépris. Il dut poursuivre le siège. Tout ce qui restait des habitants de la ville se trouvait renfermé dans la ville haute. Bientôt, la famine commença à se faire sentir. Des personnes riches donnaient tout ce qu'elles possédaient pour un peu de nourriture, et plusieurs moururent de faim. À cela vinrent s'ajouter les violences des brigands qui occupaient le temple et ses alentours. Ils s'étaient pourvus de vivres, mais quand ils virent leurs ressources leur manquer, ils se répandirent dans la ville pour enlever de force tout ce qu'ils pouvaient trouver. Quelqu'un était-il soupçonné de cacher des provisions? Ils le mettaient à la torture jusqu'à ce qu'il les leur eût découverte. Toutes les affections naturelles disparaissaient dans cette misère horrible. Les parents arrachaient la nourriture à leurs enfants, et les enfants à leurs parents. les maris l'enlevaient à leurs femmes et les femmes à leurs maris. Une bande d'hommes armés, qui parcouraient les rues de la ville en quête d'aliments, furent attirés par l'odeur d'un mets que l'on faisait cuire. C'était dans la demeure d'une dame riche, de haute naissance, Marie, femme d'Éléazar. Ils entrent et exigent qu'on leur apporte cette nourriture qu'ils ont sentie. Marie s'avance vers eux, la tenant dans ses mains, mais ces hommes endurcis au mal défaillent en voyant les restes de son propre enfant, dont elle avait mangé elle-même une partie. « Mangez, s'écria-t-elle, puisque moi j'ai mangé, ne soyez pas plus délicat qu'une mère. Mais si vous êtes trop religieux pour toucher un tel mets, laissez-moi le reste. » Saisis d'horreur, ils s'enfuirent. Quel accomplissement terrible de ce que la parole de Dieu avait prononcé contre Israël, s'il était rebelle. Écoutons ce que disait Moïse plus de 1500 ans auparavant. « L'Éternel amènera contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas la langue, une nation au visage dur, et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'écroulent, dans tout ton pays, tes hautes et fortes murailles en lesquelles tu te confiais. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Combien tous les traits de cette prophétie sont frappants quand on les compare avec ce qui se passait alors. Comme les Romains sont bien décrits, cette nation venue de loin, dont la langue n'était pas entendue des Juifs, et dont la dureté envers leurs ennemis était bien connue. Mais écoutons la suite. Et dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'en serrera, tu mangeras la chair de tes fils et de tes filles. L'homme tendre et très délicat au milieu de toi regardera d'un œil méchant son frère et la femme de son cœur et le reste de ses fils qu'il a conservés, pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera. La femme tendre et délicate au milieu de toi, qui, par délicatesse et par mollesse, n'aurait pas tenté de poser la plante de son pied sur la terre, les mangera en secret, Deutéronome 28, versets 49 à 57. Alors aussi se trouvaient justifiées les paroles que Jésus, marchant à la croix, disait avec douleur aux femmes qui le suivaient. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici, des jours viennent, dans lesquels on dira « Bienheureuses celles qui n'ont point eu d'enfants » Luc 23, versets 28 et 29. Peut-être y avait-il dans Jérusalem des femmes qui avaient entendu ces paroles et qui pouvaient s'en souvenir. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, Hébreux 10, verets 31. Plusieurs des malheureux habitants de Jérusalem tentaient-ils de sortir de la ville pour chercher quelque nourriture. Saisis par les soldats de Titus, ils étaient crucifiés en vue des murs pour frapper de terreur les assiégés et les amener à capituler. Plus de 500 de ces misérables furent crucifiés en un seul jour. Si grand fut le nombre de ceux qui, poussés par la famine, bravaient le danger et furent pris, que le bois vint à manquer pour cette œuvre de mort. Mais loin d'amener les Juifs à se rendre, ces rigueurs ne faisaient que les exaspérer davantage, et s'il y en avait qui faiblissaient, on les traînait sur les murs et on leur montrait ce qu'il fallait attendre de la miséricorde romaine. Titus était donc arrivé à la troisième enceinte, à un angle de laquelle s'élevait la tour Antonia, qui défendait le temple. Il fit avancer ses machines de guerre et les plaça en quatre points différents. Tout était prêt pour une vigoureuse attaque qu'on espérait être la dernière. Les soldats n'attendaient que le signal du général, lorsque tout à coup le sol s'ébranla comme sous l'effet d'un tremblement de terre, puis s'enfonça en entraînant les machines de guerre. Le terrain avait été miné par les Juifs qui, voyant tomber les tours et les béliers, se précipitèrent en masse hors des portes avec des torches allumées pour brûler tout ce qu'ils pourraient. Ils attaquèrent les Romains avec une telle furie que ceux-ci commencèrent à lâcher pied. Titus accourut, rallia ses troupes et repoussa les Juifs dans la ville. Mais les Romains furent très découragés par cet échec. le général romain convoqua un conseil de guerre dans lequel on résolut de réduire les Juifs par la famine. Toute l'armée se mit à l'œuvre, et en 3 jours, un mur de circonvallation de 6,5 km, avec 13 tours, fut élevé. Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés, avait dit le Seigneur Jésus, Luc 19, verset 43. Aussitôt après ce grand travail, le général romain fit construire de nouvelles machines. Les Juifs, ayant encore tenté de les détruire par des travaux souterrains, une partie du mur de la ville que ces travaux avaient ébranlée s'écroula, ouvrant une large brèche par laquelle les Romains se précipitèrent. Ils se trouvèrent en face d'une autre muraille, mais ayant été construite à la hâte, elle céda bientôt, et de cette manière les Romains se rendirent maîtres de la tour Antonia. Titus voulait conserver le temple. Il fit demander aux Juifs de l'évacuer, promettant solennellement que ses troupes ne le souilleraient pas. Mais les chefs avaient déjà mis à mort les sacrificateurs, bu le vin consacré et consommé les aliments que renfermait l'édifice sacré dont ils ne se souciaient pas. Titus et Joseph firent un dernier appel aux Juifs. Tous, sauf ceux-ci, désiraient épargner le temple. Titus s'écria, « J'en prends à témoin vos dieux, toute mon armée, les Juifs qui sont avec moi, et vous-même, que je ne vous oblige pas à ce crime. Tout fut inutile. Et comment en aurait-il été autrement? La parole du Seigneur devait s'accomplir, il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Luc 21, verset 6. Les cours et les portiques du temple furent attaqués et brûlés. Mais Titus était décidé à épargner le temple même. Le 10 août était arrivé, anniversaire du jour où, environ 650 ans auparavant, le premier temple avait été détruit par le roi de Babylone. Titus avait établi son quartier général dans la tour Antonia et prenait quelques repos, remettant le dernier assaut au lendemain, lorsqu'un cri se fait entendre. Un soldat se précipite dans la chambre du général et lui annonce que le temple est en feu. Après le départ de Titus, quelques soldats avaient attaqué des Juifs qui se défendaient encore dans les parvis, et l'un d'eux, monté sur les épaules d'un camarade, avait atteint une des fenêtres du temple et avait jeté dans l'intérieur une torche allumée. Bientôt, l'édifice entier fut en flammes. Titus se hâta d'accourir, il commanda à ses soldats d'éteindre l'incendie, mais, ou ils ne l'entendirent pas au milieu du bruit et de la confusion, ou ils refusèrent de l'écouter. Un grand nombre de Juifs s'étaient réfugiés dans le temple, comme dans une retraite sacrée. Tous furent égorgés. Des ruisseaux de sang coulaient dans l'édifice saint. Titus y pénétra et fut ébloui par la magnificence de l'intérieur. L'or dont étaient faits les ustensiles qui couvraient les murs reflétait les flammes et ajoutait à la grandeur et à l'horreur du spectacle. Le lieu saint était encore intact. Titus fit un dernier effort pour le sauver, mais en vain. Les soldats n'écoutèrent pas sa voix. Un plus grand que Titus, Dieu lui-même, devait être obéi. Le lieu saint fut aussi la proie des flammes. Les saints ustensiles, la table des pains de proposition, le chandelier à 7 branches en furent emportés. On les voit portés par les soldats dans les bas-reliefs qui ornent l'arc de triomphe élevé à Rome en l'honneur de Titus et qui représente son entrée dans la ville au retour de sa victorieuse expédition. Après tant de siècles, ce monument, resté debout, rappelle non seulement la gloire du général romain, mais, par-dessus tout, la fermeté des jugements de Dieu. Il restait cependant encore une partie des bâtiments qui attenaient au temple. Environ 6 000 Juifs s'y étaient amassés, séduits par un faux prophète qui leur avait assuré qu'au dernier moment Dieu interviendrait. Mais Christ, le vrai prophète que la nation avait rejeté, avait annoncé que tout serait renversé. Comparé Deutéronome 18, versets 18 et 19, et Actes 3, versets 22 et 23.
Deutéronome 18, versets 18 et 19, « Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il dira en mon nom, moi je le lui redemanderai. » Et acte 3, versets 22 et 23, « Moïse déjà a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire, et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. »
Sa parole fut accomplie ainsi que celle de Moïse. Tous périrent. Sur les ruines du temple, l'armée romaine offrit des sacrifices à ses dieux et salua Titus empereur, c'est-à-dire général victorieux. La ville haute, protégée par une enceinte munie de trois tours très fortes, restait au pouvoir des Juifs, commandée par Jean et Simon. Ce ne fut que le 7 septembre, près d'un mois après la destruction du temple, que cette dernière partie de Jérusalem tomba entre les mains des Romains. Les deux chefs des Juifs s'enfuirent par des passages souterrains dans l'espoir de sauver leur vie. Les autres, découragés et mourants de faim, n'offrirent qu'une faible résistance. Les vainqueurs tuèrent d'abord tous ceux qu'ils trouvèrent, jusqu'à ce que leurs bras fussent lassés du carnage. Ensuite, ils ne mirent à mort que les infirmes et épargnèrent les autres. La ville fut rasée, à l'exception de trois fortes tours qu'on laissa debout comme monument des difficultés du siège et de la valeur des assiégeants. Ceux des Juifs qui restaient en vie furent triés comme du bétail. Les principaux furent mis à mort. Les plus beaux hommes furent réservés pour orner le triomphe de Titus quand il entrerait à Rome. Plusieurs furent destinés aux travaux des mines, d'autres à combattre dans les provinces comme gladiateurs contre les bêtes féroces, pour l'amusement du peuple. En l'honneur de la fête de l'empereur Domitien, 2500 périrent ainsi. Enfin, un grand nombre furent vendus comme esclaves, mais on les haïssait et on les méprisait tellement que beaucoup d'entre eux ne trouvèrent pas d'acquéreurs. 1 100 000 Juifs perdirent la vie dans le siège de Jérusalem par les armes, la famine et les maladies. Ce nombre considérable vient de ce que beaucoup de gens des campagnes s'étaient réfugiés dans la ville qui, d'un autre côté, était remplie de ceux que la fête de Pâques y avait amenés et qui ne purent retourner chez eux. On estime que, durant cette effroyable guerre, guerre sans merci, 1 300 000 Juifs périrent. 97 000 furent faits captifs et traités comme nous l'avons dit. Ainsi périt, au milieu de calamités sans exemple dans l'histoire, la cité chérie, la ville du grand roi, vouée à la destruction à cause de ses péchés, et pour n'avoir pas connu le temps de sa visitation, quand son Messie, le Christ, vint chez elle. Les Juifs le rejetèrent et le mirent à mort. Et maintenant, ce qu'il avait dit s'était accompli. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Luc 21, verset 24. Moïse aussi, 15 siècles auparavant, avait annoncé leur triste sort. Lisez avec attention ces paroles. Vous resterez un petit nombre d'hommes, au lieu que vous étiez comme les étoiles des cieux en multitude. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, vous serez arrachés de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder, et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, et parmi ces nations tu n'auras pas de tranquillité. Deutéronome 28, versets 62 à 65. Avec quelle merveilleuse exactitude toutes les paroles de Dieu ne se sont-elles pas accomplies et ne s'accomplissent-elles pas encore aujourd'hui? Mais les paroles mêmes du Seigneur laissent une porte ouverte à l'espérance. Jérusalem, avait-il dit, sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est ce qui a lieu maintenant. Mais le jour viendra où Dieu se retournera en faveur de son peuple, qu'il ne saurait oublier. Les temps où les nations ont l'empire auront fini leur cours. Et la prophétie de Jérémie s'accomplira. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Je te bâtirai encore, et tu seras bâti, Vierge d'Israël. car il y a un jour auquel les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, et nous monterons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Faites éclater la louange et dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les fais venir du pays du nord, et je les rassemble des extrémités de la terre, tous ensemble, une grande congrégation. Ils retourneront ici. Ils viendront avec des larmes, et je les conduirai avec des supplications. Je les ferai marcher vers des torrents d'eau, par un chemin droit. Ils n'y trébucheront pas. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et annoncez-la aux îles éloignées, et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Et ils viendront et exulteront avec chants de triomphe sur les hauteurs de Sion, et ils afflueront vers les biens de l'Éternel, au blé et au mou et à l'huile et aux fruits du menu et du gros bétail. Mon peuple sera rassasié de mes biens. Jérémie 31, versets 3 à 14. Telles sont les merveilleuses promesses que Dieu a en réserve pour son peuple. Il y a espoir pour ta fin, dit-il, verset 17. Sur quelle base l'Éternel répandra-t-il ses bénédictions? Ce sera en vertu du sang de Christ que les pauvres juifs aveuglés ont versé. C'est le sang de la nouvelle alliance, Matthieu 26, verset 28. Et voici quelle sera cette nouvelle alliance que Dieu traitera avec son peuple. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voilà ce que l'Éternel réserve à son peuple d'Israël qu'il n'a pas rejeté pour toujours. Romains 11, versets 1 et 2.
Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne, car moi aussi je suis israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu.
Les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Osée 3, verset 5. Nous comprenons sans peine de qui parle le prophète en disant David leur roi, c'est de Jésus, de celui qu'ils ont percé, ainsi que Dieu le dit par Zacharie. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Zacharie 12, verset 10. En ce temps-là, la ville sera bâtie à l'Éternel, elle ne sera plus arrachée ni renversée à jamais. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louange, et le nom de la ville dès ce jour-là sera l'Éternel est là. Jérémie 31, verset 38 et 40. Ésaïe 60, verset 18, Ézéchiel 48, verset 35. Ces choses n'ont pas encore été accomplies, les Juifs sont encore dispersés, et Jérusalem est toujours foulée aux pieds par les nations. Mais toutes les paroles de Dieu auront leur réalisation. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur. L'apôtre Jacques. L'assemblée, l'Église, avait commencé à Jérusalem. Elle se composait d'abord uniquement de Juifs convertis au Seigneur Jésus. Ces croyants d'entre les Juifs étaient restés attachés au temple et aux cérémonies de la loi. Acte 21, verset 20.
et eux, l'ayant ouï, glorifièrent Dieu et dirent à Paul, « Tu vois, frère, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. »
Ils n'avaient pas compris que Christ étant venu, cet ancien ordre des choses devait disparaître, comme n'étant que l'ombre de tout ce que Christ a porté. Hébreux 10, verset 1.
Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement, chaque année, rendre parfait ce qui s'approche.
La destruction de Jérusalem et du Temple vint briser ces liens qui les retenaient encore attachés au judaïsme. Mais auparavant, dans sa tendre bonté, le Seigneur leur avait adressé, très probablement par le moyen de l'apôtre Paul, une lettre, l'Épître aux Hébreux, où il leur montrait Christ dans le ciel, le Fils de Dieu, remplaçant d'une manière infiniment excellente tout ce que la loi donnait. Nous apprenons, dans cette belle épître, qu'il est la victime parfaite, offerte une fois pour toutes, pour ôter nos péchés. Il est le grand souverain sacrificateur, paraissant pour nous dans le ciel devant Dieu et intercédant pour nous. Il nous ouvre, par son sang, l'accès du sanctuaire céleste où il est entré comme notre précurseur. Le ciel est ainsi la patrie vers laquelle nous marchons, les yeux fixés vers Jésus, le grand capitaine de notre salut, qui a vaincu nos ennemis et nous a montré le chemin. Tout cela ne vaut-il pas mieux qu'un temple, un culte et des cérémonies terrestres? Tandis que tout ce qui est terrestre passe et prend fin, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Aussi l'auteur termine-t-il en exhortant les croyants hébreux et nous aussi à sortir vers lui hors du camp portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 8, 13 et 14. Les croyants hébreux ayant ainsi reçu ces divines assurances et ces précieuses consolations pouvaient abandonner sans regret ce qui n'était que passager et allait être détruit, et saisir un royaume qui ne peut être ébranlé. Ils avaient une espérance céleste de biens éternels. Aussi, après la destruction de Jérusalem, les assemblées composées de chrétiens juifs perdirent leur caractère mélangé, et il n'y eut plus extérieurement ni juifs ni grecs. Mais si, par la grâce de Dieu, les chrétiens avaient trouvé une abondante consolation dans la certitude des bénédictions célestes, les malheureux juifs n'en avaient aucune. Ils ne pouvaient renoncer à une ville et à une terre qui leur étaient si chères. Attendant toujours un Messie libérateur et conquérant, ils se rallièrent encore une fois et tentèrent de rebâtir Jérusalem. Pour les empêcher de reconstituer leur nationalité, l'empereur Hadrien voulut élever dans cette ville un temple à Jupiter. Alors éclata une terrible insurrection des Juifs sous la conduite du faux prophète Bar-Cochébas, qui prétendait être l'étoile annoncée par Balaam. Nombre 24, verset 17.
Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte.
La révolte fut étouffée dans le sang, près de 600 000 Juifs périrent. Hadrien établit à Jérusalem une colonie romaine et donna à la ville le nom d'Aquilla Capitolina. Il fut défendu aux Juifs, sous peine de mort, d'y entrer, et même de la contempler de loin. Ce fut la fin de la nation juive dans sa terre pour de longs siècles. Il subsiste toujours un peuple à part, la plupart encore dispersés. Plus tard, un empereur romain nommé Julien l'Apostat, parce qu'il avait été chrétien, au moins de nom, et qu'il avait renoncé au christianisme pour embrasser le paganisme, plein de haine contre Christ et les chrétiens, voulut faire mentir les prophéties et les paroles de Dieu en rétablissant Jérusalem et le Temple. Il adressa un appel aux Juifs, les invitant à venir concourir à cette œuvre. Dieu arrêta cette entreprise impie. Rien ne peut annuler la parole de Dieu. Avant de continuer l'histoire de l'assemblée, nous dirons quelques mots sur les apôtres Jacques et Jean. Nous avons déjà parlé de Pierre et de Paul, et ce que nous savons des autres apôtres, en dehors de ce que dit l'Écriture, est trop incertain pour être mentionné. L'apôtre Jacques, dont nous parlons ici, n'est pas le frère de Jean. Celui-ci avait été mis à mort par le roi Hérode, acte 12. Mais l'autre Jacques, fils d'Alphée, était aussi au nombre des apôtres choisis par le Seigneur. Nous le trouvons mentionné au chapitre 15 et 21 des Actes et dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2. Dans ces différents endroits, nous le voyons occuper une place éminente dans l'assemblée de Jérusalem. Avec Pierre et Jean, il était considéré comme une colonne, c'est-à-dire le soutien de l'assemblée, Galates 2, verset 9.
Et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association.
Comme les autres, il était resté attaché aux cérémonies de la loi judaïque, mais il avait un cœur large et, dirigé par l'Esprit-Saint, c'est lui qui le premier donna l'avis de ne pas obliger les chrétiens d'entre les nations à observer la loi. C'était un homme humble. Nous le voyons dans la salutation qui est au commencement de l'épître qu'il écrivit aux 12 tribus d'Israël dans la dispersion. Bien qu'il fût le frère du Seigneur selon la chair, Galates 1, verset 19, et apôtre, il prend seulement le titre d'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Galates 1, verset 19, « Et je ne vis aucun des apôtres sinon Jacques, le frère du Seigneur. »
Jacques 1, verset 1 et 4, verset 6, « En même temps, il était d'une piété très grande et marchait dans la sainteté et la justice devant Dieu, de sorte qu'on l'avait surnommé le Juste. » On voit dans son épître comment il exhorte les chrétiens à montrer la réalité de leur foi par leurs œuvres, en étant patients dans la souffrance, en ne faisant pas exception de personne, en veillant sur leurs paroles, en ayant une vraie sagesse, pure, paisible, pleine de miséricorde et de bons fruits, en fuyant les convoitises du monde, et en vivant dans la dépendance de Dieu et dans la prière persévérante, en attendant la venue du Seigneur. Ce qu'il disait, il le pratiquait. Aussi tous, chrétiens et juifs, avaient pour lui un profond respect, et bien des âmes étaient gagnées à Christ par ses exhortations appuyées par la sainteté de sa vie. Cela excita au plus haut point la jalousie et la haine des scribes et des pharisiens, comme s'avait été le cas pour son maître, le Seigneur Jésus. Voyant qu'un si grand nombre de personnes étaient amenées par lui à reconnaître Jésus comme Seigneur et Christ, ils résolurent de le faire périr. Voici ce que la tradition raconte à ce sujet. Pour accomplir leur dessein, ils vinrent le trouver et lui dire « Nous te prions d'arrêter le peuple, car tous vont après Jésus comme s'il était le Christ. Parle-lui, afin qu'il ne s'égare pas. Dis à tous ceux qui viennent à la fête de Pâques ce qui concerne Jésus. » Jacques consentit à leur désir, et ils le conduisirent sur le faîte du temple, afin que tous puissent l'entendre. Alors ils lui dirent, « Ô juste, aux paroles duquel nous devons prêter l'oreille, dis-nous quelle est la doctrine de Jésus. » Il répondit, « Pourquoi me demandez-vous ce qui concerne le Fils de l'homme? Il est assis dans le ciel et à la droite de la puissance et doit en revenir sur les nuées. » Plusieurs dans la foule furent convaincus et glorifièrent Dieu en disant, « Hosanna au Fils de David. » Mais les ennemis de Jacques, remplis de fureur, précipitèrent le serviteur de Dieu du haut du temple, et comme il vivait encore, ils le lapidèrent, tandis que, suivant l'exemple de son divers maître, il priait pour eux. C'était vers l'an 66. L'historien Joseph regarde la destruction de Jérusalem comme un châtiment infligé aux Juifs à cause du meurtre de celui que même parmi eux on appelait le Juste. Jean, le disciple bien-aimé. Jean, le disciple que Jésus aimait, survécut à tous les autres apôtres. Le Seigneur aime tous ceux qui sont à lui. Jean 13, verset 1. Mais il honorait Jean d'une affection spéciale qui était pour ce dernier son plus beau titre de gloire et pour son cœur le bien le plus précieux.
Jean 13, verset 1. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin.
Aussi, dans son évangile, aime-t-il à se désigner ainsi. Jésus lui donna de son amour un gage bien touchant. C'est à lui que, sur la croix, et devant ensuite quitter la terre, il confia sa mère. Marie était au pied de la croix, l'âme saisie de douleur en voyant les souffrances de son fils rejeté par Israël. Et même une épée transpercera ta propre âme, avait dit Siméon à Marie, lorsqu'il tenait le petit enfant entre ses bras. À côté d'elle se tenait le disciple que Jésus aimait, que son amour pour son divin maître avait ramené sur cette scène de douleur. Et Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils, et aux disciples, voilà ta mère. » Héritage précieux pour Jean, et quelle délicatesse d'affection envers sa mère. Le Seigneur savait que ce qui la consolerait mieux serait d'être avec celui qu'il aimait. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On ignore combien de temps Marie vécut encore sur la terre, entourée des soins de Jean. Elle est nommée pour la dernière fois dans le premier chapitre du livre des Actes. Quant à Jean, Paul le mentionne comme étant encore à Jérusalem vers l'an 50. Galates 2, verset 9.
Et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association.
Selon Irénée, auteur chrétien du IIe siècle, et qui, dans sa jeunesse, avait connu des personnes qui avaient vécu avec Jean, l'apôtre se fixa plus tard à Éphèse, d'où il visitait les assemblées voisines. Jean parvint à un âge très avancé. Il mourut dans sa 100e année. Cette longue vie faisait penser à ses amis qu'il ne verrait pas la mort, mais resterait jusqu'au jour de Jésus, se fondant sur les paroles du Seigneur à Pierre. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» L'apôtre ajoute, « Cette parole donc se répandit parmi les frères, que ce disciple-là ne mourrait pas. » Mais il corrige cette pensée en disant, « Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. » Jean 21, versets 22 et 23. Il mourut en effet à Éphèse, mais durant sa longue carrière, il put veiller sur les assemblées, les édifier par ses enseignements et combattre les erreurs que les faux docteurs introduisaient dans l'Église. Il put aussi voir se former le recueil des saints écrits du Nouveau Testament, auxquels plus tard furent ajoutés les siens, son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse. Il écrivit ses livres dans les dernières années de sa vie, vers l'an 95 et 96, près de 30 ans après que Jude eut écrit son épître, et il fut ainsi le dernier des écrivains sacrés. Nous dirons un mot des écrits du disciple que Jésus aimait. Il est important d'avoir la connaissance des saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut, et pour les comprendre, rien n'est utile comme d'avoir un sommaire de ce que chaque livre des Écritures renferme. De Timothée 1, versets 13 et 14.
Et un modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous.
Jean, dans son évangile, nous présente la même divine et adorable personne dont nous parlent Matthieu, Marc et Luc, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est dans son caractère de Fils unique et éternel de Dieu, Dieu lui-même, devenu un homme ici-bas pour nous révéler, dans sa personne, ses actes et ses paroles, Dieu son Père qui est aussi le nôtre. Jean 1, verset 1, 14, 18. Chapitre 14, versets 7 à 11, et chapitre 20, verset 17.
Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique, de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Verset 18. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jean 14, versets 7 à 11. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. » Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. »
L'évangile de Jean nous parle beaucoup de la vie éternelle manifestée dans le Fils de Dieu qui est la vie. Cette vie est donnée à ceux qui croient en lui. Ceux-là sont nés de Dieu, ils sont enfants de Dieu et ont la vie éternelle. Aussi Jean, à la fin de son évangile, nous dit-il le but qu'il s'est proposé en l'écrivant. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Dans cet évangile, nous trouvons aussi la promesse du Seigneur d'envoyer à ses disciples le Saint-Esprit pour demeurer éternellement avec eux, les conduire dans toute la vérité et les faire jouir des choses célestes en Christ. Combien il est beau et précieux de contempler ainsi le Fils de Dieu, manifestant sur la terre la vie et le caractère de Dieu, en amour et en sainteté, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Puissent nos cœurs s'attacher à cette personne divine qui s'est abaissée jusqu'à nous. Écoutons les enseignements qu'il donne à Nicodème, venu à lui de nuit, et à qui il montre la nécessité d'une nouvelle nature pour connaître les choses de Dieu, et dont, en même temps, il dirige les regards, comme aussi les nôtres, vers lui-même élevé sur la croix, lui, le Fils unique donné de Dieu, pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Contemplons-le assis au bord du puits de Sichar, fatigué du chemin, mais, dans son amour, oubliant la fatigue et ses besoins pour parler à une pauvre pécheresse de l'eau qui jaillit en vie éternelle. Oui, lisons cet évangile avec soin, demandant au Seigneur que l'Esprit de vérité nous le fasse comprendre et révèle toujours plus à nos cœurs l'amour du Sauveur. La première épître de Jean est adressée à tous les chrétiens. Chacun de nous doit la prendre pour lui-même. Elle nous rappelle que Christ est la vie éternelle en même temps que le vrai Dieu, que cette vie qui était auprès du Père a été manifestée sur la terre dans la personne du Seigneur, et que les apôtres l'ont vu, entendu et touché. Mais cette vie est aussi dans le chrétien, et maintenant que Christ est dans le ciel, c'est le chrétien qui manifeste ici-bas la vie de Dieu, en marchant comme Christ a marché, dans l'amour, la sainteté, la justice, le dévouement et la séparation d'avec le monde qui gît dans le mal. Quel grand et précieux privilège pour l'enfant de Dieu! Ne désirerons-nous pas en jouir? Cette belle épître nous fait connaître les deux caractères essentiels de Dieu. Il est lumière et il est amour. Le chrétien a le privilège de marcher dans la lumière, et en ceci il a connu l'amour de Dieu. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, et afin qu'il fût la propitiation pour nos péchés. Et maintenant, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Jean écrivit aux chrétiens pour les introduire dans la communion du Père et du Fils, afin qu'ainsi leur joie fût parfaite. Et à la fin il dit, « Je vous ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Après cette épître, Dieu a voulu que nous en eussions deux autres très courtes du même apôtre. L'une est adressée à une dame chrétienne pour la mettre en garde contre les séducteurs qui n'apportent pas la doctrine de Christ. L'autre est écrite à un chrétien nommé Gaius pour l'encourager à marcher dans la vérité et à recevoir les ouvriers du Seigneur. Jean y blâme aussi Diotrephe qui usurpait dans l'assemblée une place d'autorité. En quelques lignes, l'Esprit de Dieu nous donne ainsi des enseignements et des directives bien simples, mais bien nécessaires pour marcher selon le Seigneur. Puissions-nous écouter et mettre en pratique l'avertissement de l'apôtre « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Sous l'empereur Domitien, persécuteur des chrétiens, Jean fut exilé à Patmos, petite île sauvage de l'archipel. Là, il reçut du Seigneur le livre prophétique de l'Apocalypse, ou Révélation. Il nous l'apprend lui-même dans le premier chapitre. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale. Un jour de dimanche, le Saint-Esprit fit passer devant ses yeux de magnifiques visions, et le Seigneur lui donna l'ordre de faire connaître aux chrétiens ce qui lui avait été révélé. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées. La première chose que voit Jean, c'est le Seigneur dans tout l'éclat de sa gloire, comme fils de l'homme à qui le Père a donné autorité de juger. Jean 5, verset 27. Car l'Apocalypse est surtout un livre de jugement.
Jean 5, verset 27, « Et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est fils de l'homme. »
Ensuite, le Seigneur fait écrire par Jean aux sept assemblées d'Asie qui représentent l'assemblée de Dieu sur la terre dans ses différents états successifs, jusqu'à ce que, à cause de son infidélité, elle soit rejetée du Seigneur. Puis Jean a les visions des choses qui viennent après que l'Église professante a été rejetée, et que les saints ont été ravis dans le ciel. Ce sont les jugements terribles qui fondront sur un monde idolâtre et incrédule, et qui amèneront l'établissement du royaume de Christ. Durant 1000 ans, le diable étant lié, Christ et les siens régneront sur une terre heureuse et bénie. Mais après les 1000 ans, Satan est délié. Il séduit les hommes et les entraîne à une dernière révolte contre Dieu, qui les détruit et précipite Satan dans l'étang de feu et de soufre. Alors le ciel et la terre actuels disparaissent, le grand trône blanc du jugement final est dressé, et ceux qui y comparaissent, les méchants, ont pour partage l'étang de feu et de soufre. Un ciel nouveau et une terre nouvelle surgissent. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est le bonheur éternel pour tous les rachetés. Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Ce saint livre, donné par Jésus lui-même à Jean pour que celui-ci le communique à l'Église, renferme sans doute des choses difficiles à comprendre, mais il en contient beaucoup d'autres propres à élever l'âme vers Dieu, Jésus et le ciel. Souvenons-nous que le Saint-Esprit a dit « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » L'amour que Jean connaissait et qu'il avait puisé dans le cœur de son divin maître se manifesta jusqu'à la fin de sa vie. On raconte que, trop âgé et trop faible pour se rendre dans les assemblées, il s'y faisait porter, et incapable de prononcer un long discours, il se bornait à répéter « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ?» « Pourquoi, lui demandaient les frères, redis-tu toujours la même parole ?»« Parce que c'est le commandement du Seigneur, répondait l'apôtre, et que, s'il est accompli, tout est accompli. En effet, l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Comme nous l'avons dit, sa longue vie faisait penser qu'il ne mourrait pas, mais demeurerait jusqu'au retour du Seigneur. Il passa cependant par la mort, mais dans ses écrits, il nous fait connaître les voies de Dieu jusqu'à la fin. Il s'endormit à Éphèse et son esprit bienheureux s'en alla auprès du Seigneur qu'il avait tant aimé. Avec les autres saints endormis en Jésus, il attend le moment dont Jésus parlait en disant « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi ». C'est le moment de la résurrection de vie pour ceux qui sont délogés et du changement des vivants qui demeurent jusqu'à la venue du Seigneur. Alors, tous ensemble, rendus semblables au Sauveur glorifié, nous serons conduits par lui dans la maison de son Père. Glorieuse et bienheureuse espérance. La mort de Jean eut lieu, pense-t-on, vers l'an 100, sous le règne de l'empereur Trajan.